Vous écoutez RTL.
Tout de suite sur RTL, l'histoire de Joe Kennedy, le fondateur de la dynastie. Bonjour Georges Ayache.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver sur RTL dans la curiosité. Vous êtes écrivain, historien, grand connaisseur des États-Unis. En quelques mots, qui était Joe Kennedy? Est-ce qu'on peut faire la liste de ses métiers? Pour comprendre.
Oui, on peut. C'est assez long, mais on peut. Il a commencé par être banquier. Mmh. Et puis, il a été, je ne sais pas si c'est un métier, mais trafiquant d'alcool. Oui. Bootlegger au moment de la prohibition.
C'est une occupation.
C'est une occupation
illégale,
en tout cas lucrative.
Qui peut rapporter, voilà.
Ensuite, il est devenu conseiller officieux de Roosevelt, au moment où Roosevelt s'est fait élire président, avant de devenir ambassadeur en Grande-Bretagne.
Producteur à Hollywood aussi.
Alors, auparavant, il a été producteur à Hollywood. Il a laissé une trace impérissable. Et puis après la guerre, il revient dans les affaires et se contente d'être le père du futur président, puis le père du président.
Bon, voilà, ça fait un destin.
Ce qui est déjà pas mal.
Kaléidoscope, j'appelle ça comme ça. 10 vies en une que l'on va décrire grâce à vous, Jean-Jacques.
Joe Kennedy, le patriarche du clan, est dans l'œil de notre curiosité. Un homme qui était à l'aise partout avec la mafia, les présidents et les starlettes.
Bonjour, c'est Stéphane Bern. Pardon de m'immiscer, les petits curieux. Je profite de ce podcast pour vous inviter à nous rejoindre, moi et ma petite bande, pour À la bonne heure des 11h sur RTL. Un invité tous les jours, du rire, des infos étonnantes et le plein de bonne humeur. Avant de passer à table, ce serait dommage de rater ça, non? Allez, à vous Thomas et Sidonie.
La curiosité est un vilain défaut.
Mari et père affectueux, patriarche intransigeant, opportuniste et calculateur, coureur de jupons et philanthrope, requin de Wall Street, contrebandier, producteur de cinéma, haut fonctionnaire, éminence grise et grand-père adoré.
RTL.
Joseph P. Kennedy a été un personnage complexe, contradictoire et controversé. Il lorgne la politique et aspire même à devenir le premier président catholique des États-Unis.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Joe Kennedy a eu plusieurs vies, on vous raconte ce destin, le destin du fondateur de la dynastie, la plus glamour et la plus maudite de l'histoire avec notre invité, l'écrivain Georges Ayache. Georges Ayache, Joe, c'est donc le père de JFK. Est-ce qu'il a toujours eu de l'ambition pour ce fils?
Non, c'était pas lui qui était destiné à prendre la relève et être son héritier en politique. C'était son fils aîné, Joe Junior. Mais malheureusement, Joe Junior est mort pendant la guerre. Son avion a explosé au-dessus de la Manche en 1944. Et donc, il s'est rabattu par défaut sur le cadet. Jack, c'est-à-dire John Kennedy, qui n'était pas très chaud d'ailleurs pour y aller. Il se serait bien contenté d'une vie dilettante, frivole, à lire, à écrire, très mal d'ailleurs, mais enfin. Mais, et puis il s'est retrouvé en relais et il ne pouvait pas refuser. Donc ouais. C'est au début contraint et forcé, puis après il a fait de nécessité vertu.
Ça démarre mal quand même.
Absolument.
Et la mort de son poulain, de son fils préféré, ou en tout cas de son fils aîné, celui qu'il destinait à une carrière politique et peut-être à la présidence américaine, c'est le début d'une malédiction. Ils ont eu 9 enfants, Joe et Rose Kennedy. Ce patriarche en a vu mourir combien?
Il en a vu mourir 4. Et puis même une cinquième de son fait, puisque la cinquième était Rosemary, la fille aînée, qui était attardée mentale et il a fait lobotomiser, ce qui fait qu'elle a été réduite à l'état
c'est
de
C'est une enfant qu'ils ont cachée, Rosemary?
Oui, ils l'ont cachée parce que à l'époque aux États-Unis, avoir un enfant attardé, ça rejaillissait sur les parents. On a beau dire maintenant c'est inhumain, et ça l'est en effet, de la cacher, de la dissimuler, mais à l'époque, la pression sociale était considérable. Il n'avait pas d'autre alternative que de la cacher. Il n'était pas obligé de lui trafiquer le cerveau au passage.
Alors vous racontez, Georges Ayache, ce destin dans un livre publié chez Perrin. C'est d'abord une histoire d'immigrés irlandais. Les Kennedy, ce sont des catholiques irlandais. Est-ce que Joe, donc qu'on présente comme le fondateur de la dynastie, parce que c'est le premier personnage public important, etc., est-ce qu'il est né en Irlande ou aux États-Unis?
Non, il est né aux États-Unis. Son père également est né aux États-Unis. Mmh. C'est la deuxième génération à être né. C'est le grand-père John qui lui a émigré d'Irlande à cause de la famine, la maladie de la pomme de terre, etc. Et il a traversé l'Atlantique avec des tas d'Irlandais, des centaines de milliers d'Irlandais, et ils ont pratiquement tous échoué à Boston. D'où la communauté irlandaise qui a été extrêmement vivace dans le nord-est des États-Unis.
Il grandit dans quel milieu, dans quelle famille, Joe Kennedy?
Il ne grandit pas, contrairement à ce qu'il laissait penser, à un milieu social très très bas. C'était la petite bourgeoisie. Son père avait plusieurs bistrots à Boston et vivait assez confortablement, au point de faire même de la politique.
Et Joe Kennedy, lui, il est déjà doué, très jeune, pour les affaires. Il avait un credo, un mantra.
Oui, il voulait être millionnaire avant 25 ans.
Ça, making money, faire de l'argent. Quoi.
Making money, dès le départ. Il était certainement très très doué. Et puis en plus, il avait une volonté de revanche. Parce que ce côté dont vous parliez tout à l'heure, irlandais catholique, ne l'a jamais lâché. Parce qu'on lui a toujours fait comprendre qu'il n'était qu'un irlandais catholique.
Notamment à Harvard, qui est l'une des plus grandes universités américaines. Qu'est-ce qui lui arrive là-bas ?
Partout, on lui fait comprendre qu'il est un outsider. On l'évince des clubs les plus huppés auxquels peuvent prétendre les lauréats de Harvard. Et il se retrouve vraiment marginalisé alors qu'il n'aspirait qu'à être intégré, qu'à faire partie du club.
Dans la mise en onde de notre Sébastien Duduy, de notre réalisateur, on entendait que Joe Kennedy aurait rêvé d'être le premier président catholique des États-Unis. C'est vrai, ça ?
Oui, certainement. Oui, il avait cette ambition-là. Et puis, il a compris qu'il n'y arriverait pas lorsqu'il a eu ses démêlés avec Roosevelt à la fin des années 30. C'est alors qu'il a reporté tous ses espoirs sur son fils aîné, puis ensuite sur son fils cadet. Ouais.
Joe Kennedy, qui avait cet esprit de revanche, un certain cynisme aussi, on va parler de son caractère. Est-ce qu'il a diffusé cette ambition, cette obsession de la réussite à son clan ? Et à ses enfants, donc.
Ah oui, au point d'en faire une règle de vie. Il les a éduqués dans le culte de la réussite.
Ça, c'est être éduqué comment, alors ? On se lève tôt, on fait du sport ?
Il fallait être le premier, quand on faisait de l'aviron, quand on faisait de la natation, du basket, il fallait toujours être le meilleur. Le deuxième était un pestiféré, déjà.
Ça veut dire que c'était un bon papa, Joe Kennedy, ou il a fait souffrir ses enfants avec ce mode de vie, quand même ?
Il a fait souffrir ses enfants à cause de cela, et tout autant, d'ailleurs, la mère, Rose Kennedy, qui était sur la même ligne, à ceci près que lui avait une certaine affection pour ses enfants, alors que Rose était complètement indifférente. Sur un plan émotionnel, elle était une mère abominable.
Il était dur, mais présent, c'est ça, d'une certaine façon.
Dur, mais présent. Avec ses enfants, il avait de l'affection, tandis qu'elle était d'une indifférence, d'une froideur. Et même celui qui en a souffert le plus, c'est John Kennedy, précisément, qui était le plus sensible de tous, parce qu'il était le plus fragile, le plus malade, et il aurait voulu avoir sa mère, qui n'était jamais là.
C'est une femme malheureuse, c'était pour ça, ou c'est son caractère, à Rose Kennedy ?
C'était son caractère, et puis c'est une femme trompée. C'était une femme qui était habituée à la tromperie avec son père, qui trompait sa mère allègrement, et puis elle a retrouvé le même schéma avec son mari. Donc une sorte de compensation. La compensation à elle, c'était de fréquenter les églises et de fréquenter les maisons de haute couture.
Alors justement, le Joe Kennedy tombeur, dragueur impénitent, on va vous le présenter. D'après vous, quelle grande actrice figurait parmi ses nombreuses maîtresses ? Réponse dans un instant sur RTL.
Joseph Kennedy, une figure exemplaire, en apparence. La Première Guerre mondiale commence ses ravages en Europe. À Boston, un jeune boursicoteur et banquier rêve d'ascension sociale. Il épouse Rose Fitzgerald, la fille du maire, et fait fortune en quelques années.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Pour accéder aux plus hautes marches du pouvoir, il faudra attendre de longues années. Mais la famille ne recule devant rien. Pas même de lier son destin, une nouvelle fois, à celui d'une autre famille, celle du crime organisé.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, la curiosité n'est vraiment pas un vilain défaut.
Avec Georges Ayache, écrivain, grand connaisseur de l'histoire américaine, on découvre le destin à la fois sombre et doré de Joe Kennedy, le père de JFK. Sombre notamment parce que c'est un personnage peu recommandable, vous nous l'avez dit, Georges Ayache. Thomas disait tout à l'heure, il n'aurait pas aimé Barry White sans doute. Il était raciste, Joe Kennedy ?
Il est très raciste. Très raciste, comme beaucoup d'Américains à l'époque, mais lui en plus, il avait le côté irlandais qui accentuait ce genre de
choses. C'était un immigré pourtant.
Oui, mais assez paradoxalement, chez les immigrés, on trouve beaucoup de racistes. Que ce soit les Irlandais, les Juifs, les Italiens, etc.
Il était antisémite aussi, Joe Kennedy ?
Ah oui, ça,
on va faire la liste. Hein.
Ah ça, et puis en plus revendiqué, il s'en cachait même pas. Mais là encore, il y avait une sorte d'antisémitisme latent aux États-Unis à l'époque, qui ne franchissait pas les limites qu'il y a eu en Europe, mais qui quand même ressurgissait à chaque fois, ce qui fait qu'il était un peu dans la moyenne à ce niveau-là.
Mais c'est-à-dire que ça ne s'imprimait pas dans son comportement à Joe Kennedy, son antisémitisme ? Il n'avait pas des comportements particuliers vis-à-vis des Juifs ?
Non, si ce n'est... même dans le business, il traitait avec les Juifs. Hein. Même avec la mafia, son principal correspondant, c'est Meyer Lansky, qui était grand juif.
Alors, on n'a pas encore décrit Joe Kennedy, Georges Ayache. Bel homme ?
Bel homme, qui plaît aux femmes, qui est assez grand, qui est mince,
Il fait très sage sur la couverture de votre livre chez Perrin.
Bonne santé,
qui fait une lunette ronde.
Un homme dynamique, un jeune qu'on aime fréquenter.
Sportif,
l'allure sportive en tout cas. Sur le plan physique, sur le plan de l'apparence, il est plutôt avenant.
Et donc, vous nous l'avez dit, il a beaucoup trompé sa femme, Rose, qui le savait, notamment à l'époque d'Hollywood. Producteur à Hollywood, ça aidait déjà, c'est ça?
Alors, Hollywood, c'était facile parce qu'elle était restée sur la côte Est, lui allait sur la côte Ouest, donc il y avait un continent entre les deux. Il n'y avait pas les moyens de communication qu'à maintenant, donc il pouvait batifoler en toute sécurité.
Donc, il y a eu beaucoup de starlettes et une grande star dont on va parler maintenant, une grande actrice, laquelle?
Gloria Swanson. Gloria Swanson, c'était la Marilyn Monroe de l'époque des années 30. Elle était flamboyante, elle avait une personnalité remarquable, elle était physiquement quasi parfaite.
Blonde, brune?
Blonde. Forcément. elle attirait tous les producteurs, elle avait eu beaucoup de succès au cinéma, et lui a surgi dans sa vie lorsqu'elle commençait à connaître des difficultés, parce qu'elle était tellement ambitieuse qu'elle pensait qu'elle était aussi productrice. Or, comme elle s'est plantée complètement dans le métier de la production, lui est arrivé comme Zorro pour essayer de lui arranger les comptes bancaires, etc. En fait, il a complètement ruiné, en fin de compte.
Mais il l'a séduite, ça a fonctionné. On vous propose la photo de Gloria Swanson, d'ailleurs, sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver cette beauté magnifique des années 30. C'était une liaison cachée ou assumée ?
C'est une liaison qui n'était pas officielle, mais qui était tellement à ciel ouvert que tout le monde le savait.
Donc, c'est-à-dire qu'il sortait dans des dîners.
Ah, il sortait avec elle. Il voulait même la présenter à sa femme. Et d'ailleurs, elles se sont connues, hein, Rose Kennedy.
Ah, donc il l'a présentée à Rose Kennedy.
Il l'a présentée. Il voulait faire ménage à trois, sans problème.
Ça s'est fait ou pas, alors?
C'est le cardinal Cushing qui était là, qui s'est opposé, criant au scandale. Mais au point que Rose Kennedy, voyant le comportement de Gloria Swanson, voyant le comportement de Rose Kennedy qui ne branchait pas, dit, ou deux choses une, soit elle est idiote, soit elle est meilleure actrice que moi. Mais je pense pas à la deuxième solution.
Georges Hayes, ce que vous nous décrivez quand même, c'est une image de la femme assez particulière que Joe Kennedy donne à ses fils et à ses filles aussi. Ça leur a imprimé quoi? Ça leur a donné quoi comme rapport aux femmes, au clan Kennedy?
C'est-à-dire de prendre les femmes comme des objets. Et ils ont joué sur ce registre toute leur vie.
Donc il y avait soit la maman bigote, c'est ça?
Oui, mais alors...
Soit la femme objet.
Comme ils n'étaient pas attirés vers les bigotes, donc c'était la femme objet qui était vraiment l'objet de leur choix, si j'ose dire.
Et on l'a retrouvé dans le comportement de JFK, de son frère, de tous les garçons.
De tous les garçons.
Les Kennedy, c'est aussi une fortune absolument immense qui doit beaucoup à la prohibition de l'alcool votée en janvier 1920. Mais comment Joe Kennedy a-t-il échappé à la police? Récit à venir sur RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et on découvre le destin extraordinaire, c'est le mot de Joe Kennedy, le père de JFK, personnage hors norme qui a multiplié la fortune de sa famille au prix de beaucoup de compromissions, tout en imposant une discipline de fer et une ambition majuscule à ses enfants. George Ayache, pour faire fructifier le magot, Joe Kennedy a profité de la loi de prohibition, interdiction de l'alcool, janvier 1920. Pourquoi il était bien placé pour en profiter?
Parce que son père avait plusieurs tripots à Boston, et il avait fait fortune grâce à ça d'ailleurs, et il se trouvait en 1929 avec des réserves d'alcool tout à fait normales, hein, et que le fils a éclusé avec le plus grand profit. Quand les réserves d'alcool ont été épuisées, en effet, familiales ont été épuisées, il a été cherché ailleurs. Et chercher ailleurs, ça voulait dire tomber dans les raies de la criminalité organisée.
Donc c'est là qu'il commence à nouer des liens avec la mafia,
absolument.
C'est ça ?
Ils font du trafic d'alcool avec le Canada, du trafic de mélasse, tous azimuts, et il se retrouve vraiment à la tête d'un petit empire qu'il n'aurait jamais pu constituer si la mafia n'avait pas été d'accord.
Avec quel type de mafieux? Avec des mafieux célèbres? Il était en cheville,
c'était les principaux, hein, Lucky Luciano, Meyer Lansky, ou tous ceux qui vont devenir les grands patrons de la mafia dans les années 60.
Et Joe Kennedy, le fondateur de la dynastie, cet homme respectable, est-ce qu'il a été inquiété par la police dans cette période?
Pas du tout,
jamais.
Il était assez malin pour avoir des paravents, pour avoir des hommes de paille, parce qu'il était très très intelligent. Et d'ailleurs, s'il a eu le respect de la mafia, lui qui était au départ inconnu, c'est grâce à son intelligence et à son statut social.
En 1933, c'est la fin de la prohibition. Est-ce que Joe Kennedy perd son business?
Non, au contraire.
Ou il se renouvelle et...
il, il, il se renouvelle et comme il est déjà très bien placé au niveau de la distribution, eh bien, il va continuer à faire fructifier sa position jusque pratiquement à la fin des années 40, milieu des années 40, où il revend tout son business à des mafieux avérés et avec un profit substantiel au passage.
Alors, on ne peut pas, Georges Ayache, raconter toutes les vies de Joe Kennedy. Il y en a tellement. Il y a la vie d'ambassadeur des États-Unis à Londres, notamment pendant la guerre, qui est tout aussi passionnante. Mais là, je voudrais qu'on garde plusieurs minutes pour expliquer, décrire son rôle pendant la campagne victorieuse de son fils JFK. D'abord, il y a l'argent, j'imagine. La fortune des Kennedy a servi la campagne.
Ouais, il dit en politique, il y a trois règles. Avoir de l'argent et encore avoir de l'argent.
Candidat,
il dit, je peux même faire élire mon chauffeur, c'est pas grave, avec l'argent que j'ai. Est-ce qu'il est la vérité?
Mais il le disait à son fils, à John Kennedy.
Qu'il avait laissé ça de travers, mais il était bien obligé d'en convenir, lui aussi. C'est-à-dire, quelles qu'aient été ses capacités à être président, c'est l'argent qui l'a fait devenir président.
Donc, numéro un, l'argent. Ensuite, est-ce que c'était une espèce de stratège caché, de directeur de campagne officieux de JFK? Est-ce qu'on peut dire ça?
Il l'aurait été jusqu'à la fin des années 40. Après, il se passe un phénomène. On disait tout à l'heure que John Kennedy est entré en politique contraint et forcé. Mmh. Et puis après, il y prend goût, il s'étoffe, il devient beaucoup plus réfléchi et il devient lui-même stratège. Donc, au moment où il se présente à la candidature, en 1960, il n'a plus besoin de son père sur le plan politique. Oui. Et donc, le partage des rôles est bien établi. Le père finance et s'occupe de tout ce qui est souterrain clandestin. Le fils apparaît au grand jour, la politique, la communication.
Est-ce qu'il était fier de son fils, Joe Kennedy? Est-ce qu'il lui a dit une fois « Je suis fier de ce que tu fais, de l'homme que tu es à la tête des États-Unis »
Je ne crois pas qu'il lui ait dit ça dans ces termes-là. Et ce n'était pas homme à dire à ses enfants qu'il était fier d'eux.
Parce que la famille Kennedy, c'est une organisation, c'était ça?
Absolument.
C'était chacun avait son boulot, en fait.
Mais absolument. Ouais. Et durant la campagne électorale, chacun avait sa fonction bien, bien précise. Les filles, les enfants, la mère. Donc tout le monde y participait et se donnait à fond.
Et le duc d'Édimbourg, le mari de la reine Elisabeth, parle de la firme quand il décrit la famille royale britannique. On pourrait dire ça aussi des Kennedy.
Mais totalement, c'était une machine implacable qui en plus était servie par l'argent. En conséquence, c'était irrésistible.
Un mot, vous parliez de tout ce qui était souterrain dans la campagne de JFK. Dans ce souterrain, il y a la mafia forcément. Il y a eu des liens entre John Fitzgerald Kennedy et la mafia pendant sa campagne présidentielle.
Normalement, c'était le père, c'était Joe qui aurait dû s'en charger. Et Dieu sait qu'il s'en est pas privé. Mais ce qu'il ignorait, c'est que son fils avait lui-même des liens avec la mafia. Par l'intermédiaire de Frank Sinatra, qui était son grand copain, ou par l'intermédiaire d'une maîtresse commune qui s'appelait Judith Campbell, qui faisait le lien entre le chef mafieux de Chicago, Kennedy et Sinatra. Elle était la maîtresse des trois. Donc ce qui arrangeait les choses, c'était vraiment, elle était au centre de tout, et c'est elle qui portait les messages, qui portait les valises, etc. Et ça a duré jusqu'à son élection. Donc le père l'ignorait, que le fils était aussi proche de la mafia que ça.
Destin fascinant. Merci beaucoup, Georges Ayache, d'être venu le partager avec nous sur RTL. Votre Joe Kennedy, Le pouvoir et la malédiction, est publié chez Perrin.
Vous écoutez RTL.